Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger Chin 3.
Il est 18h07 sur les ondes de Radio Aïchin 3. Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Lamine B derrière la vitre et de ma chroniqueuse écologie, en l'occurrence Léna Mezeroud. Bonsoir.
Bonsoir Reda, bonsoir à nos chers auditeurs et bonsoir à nos chers invités.
Alors, tu nous as ramené un plateau de choix pour l'émission de ce soir.
Oui, aujourd'hui nous avons un plateau féminin dont je suis très fière. Et on va parler justement de communication responsable, mais aussi de l'impact environnemental qu'a l'IA. Donc, on est accompagné aujourd'hui de Karina Benhaddadi, qui est consultante en communication responsable. Bonsoir, Karina.
Bonsoir, Lina. Bonsoir, Rida. Bonsoir, mesdames. Et bonsoir, chers auditeurs de la chaîne 3.
Merci beaucoup. Bonsoir aussi à Wassila Wulthamouda, qui est conférence manager pour le salon ICT.
Africa Summit.
Exactement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir aux chers auditeurs et merci pour l'invitation.
Et enfin, et non des moindres,
Madame Nora Alhouda Bouzegaou, qui est docteur.
Je vais rougir là.
Qui est donc conférencière et formatrice en métier de la communication.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Reda, on vous rassure, hein, c'est un plateau féminin avec une belle présence masculine.
Ah, mais merci.
Allez, pour le plaisir.
C'est l'art de la diplomatie, effectivement.
C'est alors, de la communication. Hein.
Tout à fait. Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène. En quelques jours, la mode des images générées par l'intelligence artificielle s'est imposée comme une espèce de réflexe compulsif et surtout narcissique. Une figurine 3D emballée façon G.I. Joe est jouée d'enfance, un style Ghibli qui flatte la nostalgie, le tout produit en un clic, partagé, liké et vite oublié. Mais derrière cette esthétique mignonne et cet humour sans conséquence se cache en fait un impact bien réel pour les artistes comme pour l'environnement. Ces images ne sont pas gratuites, elles ont un prix, n'est-ce pas Lina ?
Exactement, elles ont un prix et un prix environnemental. Ce dont on va parler aujourd'hui, donc l'IA révolutionne de nombreux secteurs aujourd'hui, de la vie de tous les jours, mais aussi au niveau des entreprises, mais cela ne reste pas sans impact. Pour avoir une IA qui fonctionne, nous avons besoin de data centers très, très volumineux et des
énergivores surtout.
Absolument.
Exactement. Et des algorithmes complexes qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, en raison des volumes de données traitées, cette consommation est très considérable. Cette énergie, elle, entraîne des émissions de GES très élevées. Mm-hmm. Mais aussi, l'IA aujourd'hui prend de plus en plus de place. Donc, si à cette consommation qu'on a aujourd'hui, elle est déjà considérable, nous avons beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui sont générées. Demain, ça va encore évoluer et cette consommation d'énergie va encore plus augmenter.
Alors, on va essayer de détailler tout ça. Alors, est-ce que vous saviez autour de la table que la consommation d'eau générée par une image, donc générée, je demande à ChatGPT, bonjour, j'ai besoin d'un dessin de Superman par exemple, c'est 3,45 litres. Alors imaginez ça à l'échelle de l'humanité, toute cette eau qui est gaspillée, qui part, tu viens d'en parler, dans le refroidissement. On va aussi s'intéresser à la consommation énergétique. Alors une simple requête, bonjour ChatGPT, juste ça. Alors c'est 0,3 watt-heure. Alors multipliez ça à l'échelle de longues conversations et évidemment toujours à l'échelle de l'humanité. Et enfin et non des moindres, les émissions de CO2 liées à l'IA, Lina, tu pourras me contredire, ça pourrait augmenter de 60% à l'échelle de la planète d'ici 2040.
Et oui, c'est totalement vrai, c'est des chiffres qui font peur, donc totalement, et il existe aussi des solutions. On peut avoir des alternatives pour un numérique plus durable et plus responsable, si je peux en citer quelques-unes.
Oui.
Ça serait donc pour les informaticiens et les développeurs, optimiser les codes pour qu'ils consomment moins de ressources. Mmh. On peut avoir des modèles d'IA qui sont un peu moins lourds, mais aussi alimenter les data centers en énergie renouvelable. La consommation d'eau que tu viens de citer, elle est liée donc à la génération et la production d'électricité.
Tout à fait.
La production d'électricité.
Et le refroidissement des serveurs.
Exactement, c'est ça. Mais aussi, aujourd'hui, toutes ces équipes, ces data centers ont besoin d'équipement. C'est la production de cet équipement aussi qui augmente ces émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui des clouds verts et aussi former et sensibiliser les informaticiens aux enjeux de la durabilité.
Au-delà de la durabilité, on profite de la présence des professionnels de la communication qui sont autour de la table. Il y a aussi une utilisation qui est un peu plus grave en matière de com. On a vu aussi des exemples récents utilisant l'IA générative, des images que Tsahal, donc l'armée israélienne, a utilisé le studio Ghibli, justement, pour essayer de se rendre un peu plus cool, pour faire un appel pour que les soldats en fait s'engagent, etc., etc. Donc, on est en train de dévoyer une technologie qui est belle à des fins belliqueuses, à des fins guerrières, et tout ça dans l'indifférence générale. Comment est-ce qu'on arrête ce phénomène, justement, docteur ?
Alors, permettez-moi, là, c'est très, très important ce que vous dites, parce que c'est important, mais c'est aussi dangereux. Pourquoi ? Parce que là, nous sommes comme en train de faire un certain lavage de cerveau, une certaine, j'ai envie de dire, effacement d'une certaine culture, et avec un bourrage informationnel.
Ah,
donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les gens devant une situation de ce que nous appelons aujourd'hui une infobésité. Ça veut dire que je vais noyer le citoyen dans un tas d'informations énormes, de sorte que le citoyen n'ait pas un recul pour qu'il puisse réfléchir. Et c'est comme ça qu'il tombe dans le piège. Donc, la solution pour répondre à votre question, Aleda, c'est la sensibilisation. C'est vraiment sensibiliser et surtout, aujourd'hui, investir dans un domaine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les pays occidentaux l'ont compris, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation aux médias.
Karina, est-ce que vous partagez le diagnostic du docteur ?
Absolument, absolument. Je rejoins parfaitement ce que disait notre ami Nour El-Houda. La sensibilisation et la formation à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, que ce soit donc au niveau des écoles, absolument, des écoles, des universités, des entreprises aussi. C'est très important parce que l'entreprise a justement cette responsabilité de former, d'informer et de sensibiliser, et même d'éduquer son personnel, ses employés.
Ben, vous avez fait un enchaînement magique, puisque il est l'heure de parler justement de cette fameuse communication responsable. On la définirait comment, Lina ?
Alors, on dirait que c'est une aujourd'hui communication qui fait attention à l'éthique, à la transparence, qui fait attention aussi, qui communique ce qu'on fait aujourd'hui. On fait de la communication responsable, on sensibilise à l'environnement, on parle d'impact environnemental, mais aussi cette communication, elle va au-delà de, par exemple, de l'extérieur d'une entreprise. Elle doit se faire aussi au niveau de l'entreprise entre les différents départements. Et je pense que Karina nous a préparé une introduction plus profonde et plus explicite.
Merci beaucoup, Lina. Donc, effectivement, avant de parler de communication responsable, laisse-moi faire une petite introduction pour parler de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises. Absolument. On parle même de RSO, donc responsabilité sociétale des organisations. Les organisations, donc ça peut être les hôpitaux, les départements ministériels, les banques, etc. Donc on ne parle pas uniquement des entreprises hein, comme secteur économique, on parle de manière beaucoup plus large. Donc elle s'inscrit dans cette dynamique-là qui est beaucoup plus large et c'est la manière dont les entreprises prennent en compte leur impact environnementaux et sociétaux dans leur prise de décision et dans les actions qu'ils réalisent. Et pour faire connaître justement et crédibiliser ces actions à travers une communication qui se fait de manière sincère et cohérente sans tomber dans le greenwashing.
Exactement.
Mais en fait, c'est une manière de parler sans tricher. Il faut dire les choses telles qu'elles.
Tout à fait. Exactement. Comment on pourrait, par exemple, éviter le greenwashing et être sensible au greenwashing, le détecter en tant que consommateur et l'éviter en tant qu'entreprise ?
Alors, greenwashing, pour nos auditeurs, c'est lorsqu'une entreprise a des velléités écolo, mais c'est uniquement du marketing. En fait, on se souvient du logo de McDonald's qui est passé du rouge au vert. C'est l'exemple parfait.
Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, le greenwashing, c'est vraiment de verdir un petit peu les choses, de dire que l'entreprise est écolo sans qu'elle le soit. Hein,
c'est
réellement. Absolument. C'est de la fausse com, j'ai envie de dire. C'est une com trompeuse. Alors, pour détecter le greenwashing, souvent, quand une entreprise est dans une démarche de greenwashing, elle va faire appel à des superlatifs. On est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les premiers de la classe, hein, n'est-ce pas ? On est les plus écolos, on est les premiers. Et ça, dans une démarche de communication responsable, c'est vraiment à éviter parce que dans une démarche de communication responsable, on est plus dans le dans la sobriété, dans le...
Alors j'ai un exemple, voilà. J'en ai plein en fait en préparant l'émission. Il y a Patagonia par exemple qui est qui n'existe pas en Algérie, donc on peut citer la marque. C'est une marque de vêtements. Leur slogan que je trouve génial, c'est Don't buy this jacket. N'achetez pas cette veste. C'est pour inciter les gens à utiliser le à se vêtir avec de deuxième main, à essayer de réparer en fait ces vêtements au lieu de les balancer comme ça directement et d'en changer. Et ça fonctionne. Les gens achètent, paradoxalement.
Absolument.
Donc quand on leur parle, quand on parle à ses clients, à ses prospects potentiels, comme à des adultes, ça marche.
Ça marche, exactement. Après, il y a peut-être une maturité d'audience qu'on a ou on n'a pas peut-être ici en Algérie, dans le contexte algérien. C'est Patagonia. Après, c'est vraiment pas du greenwashing. Ils font des actions très profondes par rapport à l'environnement.
Bon, c'est juste pour montrer que rentabilité et écologie, ça peut faire bon ménage sans souci.
Mais tout à fait. C'est une rentabilité et une durabilité sur le long terme. Aujourd'hui, c'est même au niveau de consommation, ils auront des consommateurs qui seront là sur le long terme. Et même les produits, si on les achète un peu plus chers, ils sont encore une fois là pour le long terme.
Pour
donc,
durer.
Je reviens vers Kaina pour lui demander en Algérie, donc par rapport à la communication responsable, on en est où?
Merci pour ta question, Lila. En fait, avant d'arriver à l'Algérie, je souhaiterais déjà planter le décor un petit peu. De par le monde, alors, le concept de communication responsable, il est relativement nouveau. On parle de communication responsable depuis les années 2006-2007, hein, donc c'est vraiment relatif, c'est vraiment nouveau, quoi. Donc, pendant les années 2000, il y a eu une prise de conscience progressive des enjeux environnementaux. Donc là, les entreprises commencent à se soucier de leur impact. Une entreprise qui va aller chercher ou se procurer du papier recyclé, pour avoir vécu moi-même cette expérience lorsque j'étais au ministère de l'Environnement. Donc voilà, c'était vraiment ça, le genre de préoccupation du quotidien, sans forcément se soucier de la provenance de ce papier recyclé qui va venir de l'autre bout du monde. Donc c'était ça. C'est vraiment le tout début de la responsabilité ou de la communication responsable.
Et surtout, il y avait le gros scandale Nike d'il y a quelques années.
Tout à fait.
Où, pour la première fois, on a su que c'était des petits-enfants cambodgiens qui, en fait, réparaient les baskets de l'autre côté de la galaxie. Là, évidemment, il y a une prise de conscience massive et les marques se sont dit, oula, je peux plus faire n'importe quoi.
Comme je veux, absolument, absolument. Deuxième génération, c'est une génération, on va dire, un peu plus sensible et beaucoup plus, je dirais même beaucoup plus sensible à ces enjeux environnementaux. 2010, donc RSE, partout, ça parle partout de RSE avec donc l'ISO 26000 qui a été publié donc en 2010.
Que Lina adore, voilà.
Que Lina adore.
Je défends à chaque émission.
Donc là, c'est vraiment une approche RSE. Et là, ça dépend vraiment des entreprises. Il y a des entreprises qui ont carrément intégré cette approche, ou je dirais même cette stratégie RSE dans leur business model, et il y en a d'autres qui voilà choisissent de réaliser des petites actions ponctuelles, mais c'est toujours dans une démarche, j'ai envie de dire, descendante. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui met en place des stratégies envers donc son public cible, sans pour autant échanger avec le public cible, sans pour autant écouter ses avoir son retour, son feedback, écouter ses besoins. Voilà. Covid, troisième et dernière génération, donc on y est, après la pandémie de Covid-19, il y a eu une réelle prise de conscience de ces enjeux-là et du fait qu'il est nécessaire d'intégrer le citoyen, donc le consommateur, dans notre réflexion et qu'il soit vraiment au centre de toute action que nous réalisons. Donc, c'est de là que comme je disais, le citoyen est devenu vraiment au centre de ces discussions-là. La discussion, donc, avec les différentes parties prenantes, quand on parle de parties prenantes pour une entreprise, c'est d'abord ses employés, n'est-ce pas? Et ensuite, les parties prenantes externes qui vont être les fournisseurs, la banque, département ministériel, tout le monde. Voilà. Donc, il y a eu une réelle prise en compte et prise de conscience, hein, je dirais, de l'importance du rôle du citoyen dans tout ça. L'Algérie dans tout ça. Je reviens à ta question. Moi, je dirais que en Algérie, on est vraiment, on est à la deuxième génération. Hein, la deuxième génération depuis quelques mois, je dirais quelques années. On parle beaucoup de RSE en Algérie, n'est-ce pas? Il y a même énormément d'événements qui sont organisés en ce moment. Autour de cette thématique relativement nouvelle en Algérie. Et au final, le défi en Algérie, ça serait vraiment d'aller au-delà de ces actions ponctuelles qui sont réalisées.
Au-delà de la hype.
Voilà. Et d'aller vraiment vers une stratégie RSE qui soit intégrée dans le business model de l'entreprise et de
développer... Mais on y arriverait comment? Ce serait coercitif, ce serait incitatif avec les impôts. Comment justement implémenter cette culture du vert?
Alors, cette culture du vert, tu en parlais tout à l'heure, Nourlouda, ça ne peut se faire sans formation et sans sensibilisation en continu, vraiment à tous les
Donc,
niveaux.
Donc, pas d'obligation, voilà.
Pas d'obligation,
gens, mais
absolument.
Mais on explique que c'est dans leur intérêt d'y
absolument,
aller.
Absolument, c'est absolument ça.
Exactement. Et puis,
au fait, si vous permettez juste par rapport à ce que disait Kahina et par rapport à ta question Reda, lorsque tu disais comment pouvoir encourager les entreprises, moi je dirais probablement par une obligation implicite. C'est-à-dire on oblige sans pour autant obliger.
C'est-à-dire
en inculquant. C'est vrai que c'est une chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai que nous avons besoin de plus de temps et c'est un travail qui se fait à long terme. Mmh. En travaillant déjà sur la jeune génération, en essayant de la sensibiliser, de l'éduquer, de lui faire comprendre l'enjeu environnemental aujourd'hui et que aujourd'hui, je sais pas, la spécialiste environnement le dira, mais on va bientôt tirer la sonnette d'alarme par rapport à la question environnementale aujourd'hui. Et nous ne voudrions pas justement arriver à tirer cette sonnette d'alarme et arriver au point du non-retour. Donc aujourd'hui, c'est le citoyen. Et le citoyen aujourd'hui, il a son mot à dire. J'ai envie de dire audience, je parle communication, donc j'ai envie de dire audience. Elle a son mot à dire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle dans la communication, dans le monde de la communication, c'est une audience chaude. Ça veut dire c'est une audience qui a son mot à dire. C'est une audience qui s'impose. Vous savez, dans le domaine des réseaux sociaux, par exemple, vous postez une information, elle a besoin de 2 heures pour faire le tour du monde. Et donc, on peut, le citoyen, il peut, par exemple, travailler sur ça, poster sur cette question-là, en faisant adhérer donc la société petit à petit à cette culture. Parce que avant tout, la RSE, l'environnement, c'est une culture en soi. On peut pas obliger une personne à faire quelque chose qui vient de lui.
Donc, si je comprends bien, il faut que ce soit un plébiscite, j'allais dire populaire, pour que les entreprises changent. Faut que ça vienne, j'allais dire, du bas. C'est pas péjoratif,
mais voilà.
Voilà,
du bas. Au fait, parce que l'entreprise est là pour répondre à un besoin. Donc, si le citoyen exige un besoin particulier, l'entreprise ne peut que répondre à son besoin.
C'est comparable au label bio en Europe, par exemple, hein, qui les entreprises étaient très timides, ne voulaient pas forcément d'agroalimentaire, ne voulaient pas forcément aller vers ça. Et dès que les gens commençaient à acheter ce type de produit parce qu'il est bio, ça a été une explosion. En même pas 10 ans, même pas une décennie. Ça a été très très rapide.
En même pas une décennie, je suis en accord et en désaccord avec ce que vient de
comment que je vais faire dans l'émission.
Je pense que la sensibilisation, on est tous pour ici, on est autour, on en parle à la radio, on en parle à chaque fois, on sensibilise, on fait notre rôle.
Là.
Exactement, c'est pour ça qu'on nous sommes là.
Alors, est-ce qu'on est un échantillon représentatif de l'ensemble de la société algérienne? Ça, c'est un vaste débat. Voilà. C'est
exactement. Alors, on voudrait faire un effet de boule de neige. Nous sommes petits et on va...
Oui, je ne dis pas le contraire, voilà. C'est pas parce qu'on est convaincus tous autour de la table que c'est le cas de la majorité.
Voilà, effectivement.
Un effet de boule de neige, mais est-ce qu'on a peut-être le temps d'arriver à sensibiliser tout le monde et à convaincre tout le monde.
Et avoir suffisamment de neige.
Exactement.
Voilà.
Faut aller en hauteur, n'est-ce pas? Faut aller en hauteur.
Tout à fait.
Exactement, je pense que ça ne peut pas être que volontaire, ça ne peut pas être... Puis il y a des gens qui vont vous dire, oh, moi, au final, je vais mourir, qu'est-ce que je vais faire de cette planète Terre pour les générations futures? Donc je pense qu'il faut être quand
même... C'est pour ça qu'il faut cibler les jeunes.
Il faut cibler les jeunes, mais encore une fois, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on va attendre jusqu'à ce que ces jeunes-là soient plus matures et faire la part des choses de leur côté? Donc on a parlé d'environnement, j'aimerais aussi la RSE, elle englobe l'environnement et aussi l'éthique et la transparence. Une thématique que je voulais aborder avec toi, Nour El-Houda.
Effectivement.
Donc,
alors, pour répondre à ta question, permets-moi de réciter une citation que j'apprécie beaucoup. Mmh. Alors, je ne sais pas qui est l'auteur de cette citation, je le salue, de passage, c'est toujours en vie, qui dit que l'éthique ne se décrète pas, elle se vit, la transparence ne s'improvise pas, elle se construit, et la communication responsable, c'est ce qui relie les deux. Donc, au fait, aujourd'hui, je viens d'une formation de prise de parole en public. Et la question qui revient à chaque fois, c'est lorsque je suis devant une audience et que j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Est-ce que j'ai le droit de ne pas répondre? Alors je dis non, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de ne pas répondre. Pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce ne sont plus les plus forts qui gagnent, mais ce sont ceux qui sont les plus vrais.
Alors,
permettez-moi de vous raconter.
Ça se discute,
mais on peut en discuter. Permettez-moi de vous raconter une anecdote que ma grand-mère, la rahma salihah, nous disait. Elle nous racontait, vous savez, quand on est petit, on se chamaille tout le temps. Hein. Et chacun d'entre nous se dit, c'est moi qui ai raison. D'accord, c'est moi qui ai raison. Alors elle nous dit, pour calmer un petit peu les esprits, elle nous dit, vous savez, Dieu a créé la vérité en forme de miroir. Il a jeté le miroir par terre et, bien sûr, le miroir se casse et puis nous avons plusieurs fragments. Chacun d'entre nous va prendre un fragment. Supposons que cette glace est la vérité et que chacun d'entre nous a pris un fragment. Ça veut dire que nous détenons tous une partie de la vérité et non pas toute la vérité.
Vive la sagesse populaire.
Donc, oui. Et elles étaient très sages, n'est-ce pas, nos grand-mères. Et c'est ce que j'essaie de dire. On ne peut pas dire la vérité parce que de toute façon, on ne la détient pas. Mais on peut dire ce qui est vrai. D'accord. Donc, si je n'ai pas de réponse, c'est tout simplement, je n'ai pas de réponse. C'est permettez-moi de faire une recherche, c'est permettez-moi de creuser là-dessus, je reviens vers vous.
De passer la parole à ma collègue.
De passer la parole, exactement. Mais de dire ou de mentir, c'est finalement aller où l'éthique.
Absolument.
Parce que l'éthique, c'est pas quelque chose que j'écris, ce n'est pas une réglementation, ce n'est pas
surtout
quelque chose.
Surtout quand on est dans la formation, pardon.
Voici
on a une responsabilité quand même très lourde sur les épaules parce qu'on est là pour transmettre. Et on reçoit une question à laquelle on n'a pas de réponse. On n'a pas le droit de trahir la confiance parce que les gens, ils sont là, ils nous font confiance, ils font confiance à notre vécu, notre expérience, notre expertise. Et il est de notre devoir d'honorer la confiance de nos apprenants.
C'est d'où justement l'importance de la communication responsable, parce que la communication responsable, c'est un ensemble de valeurs. Donc, quand on parle de communication responsable, nous parlons d'éthique, nous parlons de transparence, nous parlons d'authenticité, nous parlons du respect de l'autre. Vous allez me dire, ce sont des valeurs avec lesquelles nous avons grandi, finalement. Ce sont des valeurs de notre société. Mais dans l'entreprise, c'est une autre paire de manches. Dans l'entreprise, c'est pas des valeurs qu'on retrouve, mais c'est pas peut-être au degré qu'on veut. Et c'est là où intervient finalement l'accompagnement, où intervient le coaching, où intervient la formation. Bien sûr, je dis pas que les valeurs n'existent pas, non, mais
En entreprise, c'est la rentabilité.
C'est la rentabilité. Et puis il y a autre chose aussi dans l'entreprise Reda. Pendant de longues années, nous avons plus investi avec l'avènement de l'industrie, etc. Nous avons plus investi dans tout ce qui était compétences opérationnelles, dans tout ce qui était compétences métiers, techniques. Donc, nous avons beaucoup investi dans cela. Et nous avons un petit peu oublié le côté soft skills, le côté humain. Alors, permettez-moi de partager avec vous une étude qui a été faite en Europe. Alors, j'invite nos étudiants qui sont à l'ex-IMPS de nous faire ce genre d'études parce que nous en avons besoin pour trouver des solutions d'ailleurs.
C'est l'Institut national de planification et de statistiques.
Voilà. Je voulais pas dire de bêtises. Merci beaucoup, Reda. Et donc, permettez-moi donc je vous disais de partager cette statistique. Il y a eu une étude qui a été faite parce que en ce moment, nous parlons de beaucoup de conflits au sein de l'entreprise. Alors, on voulait savoir quelle est la source finalement de cette entreprise. 94% des répondants ont dit que la source de la communication en entreprise, je vous parle d'une étude qui a été faite en 2024 sur plusieurs entreprises en Europe.
D'accord.
Donc, 94% des répondants ont dit que la première source de conflit était l'écoute active. Et l'écoute active, on le sait, c'est la base de la communication. Donc, c'est là où intervient aujourd'hui l'accompagnement, le coaching en communication responsable.
On fait une petite pause et on revient.
I just can't get enough. And if you move real slow, Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-Chin-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Effectivement, c'est Lamine B qui répond personnellement à tous les messages que vous nous envoyez sur la page Facebook de l'émission. Il le fait avec amour et abnégation. Le docteur Ben Zagaou avait une question, avait une statistique plutôt à partager avec nous.
Effectivement, donc vu qu'on parlait des formations, on avait dit qu'aujourd'hui il y a un retour vers l'intérêt aux soft skills, vers l'investissement dans la formation aux soft skills. D'accord. Alors nous n'avons malheureusement pas des statistiques qui nous disent combien le taux d'investissement en formation, mais nous avons au moins des statistiques sur l'après-formation et c'est ce qui nous intéresse. D'accord. Donc aujourd'hui, les gens qui ont bénéficié, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi, comme le disait Karina tout à l'heure, une véritable prise de conscience par rapport à l'importance de la communication responsable et par rapport aux soft skills au sein de l'entreprise, on a compris que c'était, j'ai envie de dire, le traitement à beaucoup de mots. Pas tous les mots, mais beaucoup de mots. Et donc, après la formation, donc il y a eu une étude qui a été faite qui nous donne les chiffres que 95% des participants, de ceux qui ont bénéficié des formations, sont satisfaits de leur formation. Donc, ils ont réellement ressenti...
J'espère bien s'ils ont payé pour, voilà. Ils ne vont pas dire « Oh non, c'était... »
ils ont payé pour. Alors, ils ont payé pour, donc ils ont le droit de dire « Ah, je ne suis pas satisfait. »
C'est ça, exactement.
Ouais, finalement,
mais c'est ça, ouais.
Ils ont le droit.
Avec la mentalité algérienne, je ne suis pas sûr.
Alors, si tu remets en cause les statistiques...
Ah, il faudrait que nos amis de l'INPS voient à notre secours.
Il faut les encourager.
Tout à fait.
Et après, vous savez qu'après une formation, il y a une évaluation à chaud qu'on fait donc juste après, plutôt le jour de la fin de la formation, mais il y a aussi une évaluation à froid qu'on fait, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois après.
Avec le recul nécessaire.
Voilà, est-ce qu'il y a eu un réel transfert, ce qu'on appelle aujourd'hui le transfert des compétences? Alors, paraît-il qu'il y a eu une amélioration à hauteur de 80% sur le plan performance en communication pour les personnes qui ont bénéficié de ces formations.
Lina. Bien, merci beaucoup Najouda pour ces statistiques qui nous... En fait, on se rend compte finalement de leur importance. Et je reviens donc vers Karina et lui dire au final, un bon discours éthique et une bonne stratégie marketing responsable, c'est quoi? Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples?
Oui, bien sûr, chère Lina. Le discours responsable, c'est d'abord un discours qui va éviter la surinformation. Et on est vraiment dans ça. Hein. On le vit actuellement, les réseaux sociaux, beaucoup de surinformation, beaucoup d'informations. On est vraiment bombardé d'informations. Et donc, on est vraiment dans une posture, on va dire, de mesure. Il faut vraiment être dans la mesure. On participe à un débat. On ne le domine pas. Et ça, c'est vraiment très important. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Nour Al-Houda. Il y a le deuxième point qui est la sobriété. Lorsqu'on parle de communication responsable, on va forcément parler de sobriété. Et enfin, cette ouverture d'esprit, justement, qui nous permet d'être dans une posture d'apprenant, toujours, en continu. Pour l'exemple, oui, alors, je vais te donner un exemple de marketing éthique, ce qu'on appelle aussi le marketing durable. Produit de grande consommation, par exemple, lessive. Mm-hmm. Avant, le message, c'était, ou la promesse, c'était que ma lessive, elle enlève les taches.
Et là, plus blanc, plus blanc.
Ouais, voilà, oui. Même les plus tenaces, n'est-ce pas? Le message a ensuite évolué. Avec la concurrence.
On parle de l'Algérie ou niveau monde?
Niveau monde, Algérie.
Parce que nous, c'est assez spécial. Hein,
Algérie voilà. Y compris, et on revient sur ça. Et donc, le message a ensuite évolué. On va plus parler du meilleur rapport qualité-prix. Mm-hmm. Tout le monde produit de la lessive, mais qui a le meilleur rapport qualité-prix? Maintenant, le discours a encore évolué et ce n'est plus les caractéristiques du produit, parce que ça, c'est devenu vraiment une évidence. Je suis censée avoir un produit qui m'enlève les tâches, etc.
Il y a des normes qu'on respecte. S'aligner.
Absolument. On s'aligne aux normes internationales. Là, on est sur quel effet négatif ce produit va m'éviter, va me permettre d'éviter. Donc aussi bien moi, citoyen, donc par rapport à ma santé, que pour l'environnement.
Et pour la machine en elle-même.
Absolument. Mmh. Et donc là, on va parler de produits qui sont biodégradables. On va vous parler aussi de produits sans telle ou telle composante qui sont un peu... voilà, qui sont peut-être nocifs, ouais, exactement. Donc, on voit vraiment que le message a évolué. Pourquoi ? Parce que justement, il y a cette prise de conscience de la part du consommateur, de la part du citoyen, et c'est tant mieux.
On va prendre deux exemples internationaux pour voir que cette communication responsable fonctionne. Alors, il y a la marque Allbirds. Je ne cite que des marques qui n'existent pas en Algérie pour éviter les soucis. Ça existe en Nouvelle-Zélande et c'est des chaussures écologiques. Alors, eux, en temps réel, communique sur l'impact carbone de chaque chaussure. Bonjour, vous allez acheter ce modèle en 43. Ce modèle a coûté tant de CO2, a coûté tant d'énergie. Et c'est au consommateur de décider est-ce qu'il le prend ou pas. Et ça fonctionne. C'est vraiment un argument, c'est devenu un argument marketing. Vente, ouais. Deuxième exemple, vous connaissez tous, je pense, autour de la table, Ben & Jerry, les glaces. Mmh. Alors Ben & Jerry, alors eux, je trouve ça formidable, c'est-à-dire qu'ils assument leurs contradictions. Oui, j'utilise tel refroidisseur, mais à côté, j'ai donné telle somme d'argent pour telle fondation d'enfants, etc., etc. Ça communique dans la transparence totale, et moi, je trouve ça absolument louable. Parce que notre industrie, c'est de l'industrie, on peut pas la changer comme ça du jour au lendemain. Donc, ils ont assumé de polluer, mais de faire d'autres choses à côté. Et ça fonctionne. Lina n'est pas très, très, très d'accord avec cette stratégie.
Je suis pas très.
C'est pas moi, Ben & Jerry, hein, il faut.
Oui. C'est pas une stratégie qui va dans le sens du pollueur, du pollueur-payeur. Ça peut s'inscrire dans ça?
Alors, Lina va nous faire un peu de didactique.
Ici, c'est une stratégie de compensation. Ça veut dire, parce qu'il y a réduction et compensation. Le principe du pollueur-payeur, c'est, par exemple, on impose telle et telle taxe. Si vous polluez tant, vous payez tant de taxes. S'ils avaient à choisir entre donner à une association ou bien payer des taxes, ils choisiraient forcément.
Voilà, c'est du cynisme pur.
Exactement. Voilà. Donc ici, c'est une stratégie de compensation. C'est comme je pollue tant, je plante tant d'arbres. C'est de la compensation, mais c'est.
Qu'est-ce qui te gêne dans ça ?
Ce qui me gêne, c'est que on devrait commencer par de la réduction. Faire son bilan carbone. Le bilan carbone, c'est une façon de quantifier son impact. En fait, on fait un plan de réduction et on garde la compensation en tant que dernière option. Ça ne veut pas dire je continue à polluer, mais je fais telle et telle action pour justement compenser. Non, je réduis. Si je n'arrive pas à réduire parce que demain, une autre changer de stratégie, ça va peut-être impacter mon produit. Donc ça, on ne peut pas le faire. À ce moment-là, on commence à faire de la compensation. Donc, c'est par rapport à ça. Et puis, j'aimerais poser une question. Donc, une question, si vous aviez quelque chose à faire aujourd'hui, on est dans la sensibilisation. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs pour faire plus attention à l'environnement, pour faire de la communication responsable, ça serait quoi ?
Allez, 2 minutes chacune et ensuite sur deux thématiques. Allez, docteur.
Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, je commencerai déjà par...
C'est ça que j'ai dit 2 minutes.
Voilà, exactement. Donc, je dirais déjà commencer par voir s'il y a des fuites d'eau à la maison, de réparer les fuites d'eau pour éviter un petit peu le gaspillage de l'eau. En parler beaucoup aux enfants, pourquoi pas les accompagner par exemple dans des fermes pédagogiques aujourd'hui ça existe en Algérie, alhamdoulilah.
On en a reçu quelques-unes dans l'émission.
Voilà, par exemple au niveau des universités, des écoles, des crèches, pourquoi ne pas introduire un module d'accompagnement, un module de sensibilisation qui rentre dans la dynamique ou dans l'esprit, j'ai envie de dire, de l'éducation.
Le collectif Torba avait un projet dans ce sens, me semble-t-il.
Oui, effectivement.
Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus au niveau des universités et pas que par exemple, les spécialités techniques qui visent directement à l'environnement. Aujourd'hui, il y a même d'un module de droit durable, peut-être de communication responsable, vous confirmerez.
Pas encore, en tout cas, au niveau de notre université, Inch'Allah, pourquoi pas.
Inch'Allah, mais ça existe aujourd'hui même au niveau de l'éducation nationale, il y a de plus en plus ça aborde un peu plus de la thématique avec les enfants. Kahina.
Merci Lina. Ben, je rejoins ce que disait Nourlouda. Elle est vraiment dans la sensibilisation au niveau des entreprises, sensibiliser de plus en plus et même au niveau des foyers par rapport aux éco-gestes au quotidien. Les éco-gestes, c'est des gestes au quotidien écolo. Donc je réduis mes déchets, je trie mes déchets à la maison.
Je jette pas par la fenêtre de la voiture.
Tout à fait, absolument. C'est absolument ça.
Alors il faut bien que je pose la question qui fâche. Je suis un peu là pour ça. Ça fait des années qu'on répète ces messages ad nauseam. Oui. Et ça, autour de nous en tout cas, ça, on ne voit pas forcément le changement. Qu'est-ce qu'il faudrait changer justement dans la manière de transmettre ces messages?
Alors, si tu permets, Reda, oui, la manière, c'est de changer notre façon de communiquer parce que la cible a changé. Absolument. La perception du message et la réception du message a changé. Aujourd'hui, nous continuons à faire des campagnes de sensibilisation un petit peu fades, un petit peu plates, alors qu'il faut aller vers le citoyen.
Tout à fait.
Voilà.
C'est ça.
C'est notre façon de communiquer.
Écouter et comprendre les besoins du consommateur, du citoyen et commencer je dirais pas les écoles, hein, même au niveau des crèches. Il faut vraiment commencer très tôt la sensibilisation.
Merci beaucoup, mesdames. Vous restez avec
plaisir.
Nous.
Médiatique présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger Chin 3.
Et du 21 au 23 avril 2025, c'est la semaine prochaine, Alger accueille l'ICT Africa Summit, c'est un rendez-vous technologique panafricain où se croisent décideurs, start-up, ministères et investisseurs autour d'un seul objectif, accélérer la transformation digitale en Algérie. Pour en parler, Madame Wassila Wouldhamouda,
bonsoir. Merci Reda, merci pour l'intérêt à notre événement. Effectivement, l'ICT Africa Summit, déjà pour l'histoire, c'est une fusion de trois événements. Oui. C'est le ICT Maghreb, c'est le Digital Africa Summit et Alvitik du groupe
Algérie
Télécom. Voilà. Donc l'objectif de cette fusion, c'est de faire un peu de l'Algérie une plateforme d'échange et de partage au niveau continental pour amener les différents acteurs qui ont un rôle stratégique dans l'évolution et la digitalisation dans notre continent. C'est aussi une plateforme pour le partage des expériences, des bonnes pratiques, explorer des potentiels partenariats, ramener les nouvelles technologies à travers les exposants, etc. Donc vraiment, on est là pour partager, mais aussi pour apprendre des autres expériences.
Alors, je me souviens du discours de notre ami Tajdine Bachir de l'année dernière, où, grosso modo, il disait qu'il fallait arrêter de regarder vers le nord, et ça serait bien aussi de baisser la tête et regarder vers notre continent. Il y a pas mal de choses à y faire.
Effectivement, parce que à travers, c'est une coopération sud-sud, hein, et à travers une coopération sud-sud dans le domaine du ICT, ça peut ouvrir une porte à une grande collaboration et à de grands partenariats durable dans notre continent.
Il y a beaucoup d'écosystèmes effectivement qui se ressemblent, donc ça facilite les passerelles en fait.
Effectivement. Donc la nouveauté cette année, c'est que nous sommes en train d'aller vers une diversification. Nous avons une conférence phare, la conférence principale qui va parler et aborder les différents sujets, la fintech, l'intelligence artificielle,
la blockchain, les villes intelligentes,
etc. Voilà. Et puis nous avons des forums au sein de l'événement qui vont se dérouler en parallèle. Nous avons la health tech qui va aborder le rôle de tout ce qui est ICT dans la promotion et l'accès à la santé. Et nous avons la e-gouvernance. La e-gouvernance, son objectif, c'est d'aller vers une digitalisation des administrations publiques, des infrastructures. Bah,
j'allais t'en parler justement parce que c'est inédit. Il y aura un pavillon entier dédié à la e-gov.
Exact, oui. À la e-gov, c'est sous le haut patronage, plutôt avec le parrainage du ACN, le Haut Commissariat à la numérisation. Et cette année aussi, nous avons le parrainage de 5 institutions nationales. Nous avons le ACN, comme je l'ai déjà mentionné. Nous avons le ministère des Télécommunications et des Postes. Nous avons le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de la Santé et aussi le ministère délégué à l'industrie pharmaceutique.
Très bien. Est-ce que tu peux me parler du fameux hub?
du fameux hub. Donc, le hub, nous sommes ici...
Via Alvetic, notamment.
Via Alvetic, voilà. Bien sûr, parce qu'au fait, l'événement, c'est un événement phare aussi du groupe Télécom Algérie, mm-hmm. parce que c'est l'événement phare annuel. Nous avons fusionné les trois événements pour créer ce hub. Cette plateforme d'échange qui va englober tout ça, toutes les thématiques liées à l'ICT.
Et quid du fameux concours panafricain de start-up?
Exactement. Donc, il va y avoir un concours panafricain de start-up qui vont bien sûr pitcher leur start-up, leur projet face à un jury. Ils vont sélectionner la meilleure start-up et qui va être honorée lors de l'événement.
Selon quels critères? Il y aura un jury? C'est une compétition.
Il va y avoir un jury qui a un certain nombre de critères que je ne peux pas dévoiler pour le moment.
Ah, pour l'émission. Allez, un cri.
Écoutez. il va y avoir un certain nombre de critères et c'est bien sûr ces startups devraient répondre à un certain nombre de critères. Il va y avoir un classement aussi mm-hmm. et la meilleure startup va bénéficier d'un accompagnement par la suite.
Lina qui trépigne d'impatience.
Alors, moi j'ai entendu un concours de startups. Je me demande, est-ce qu'il y a des startups qui activent dans la RSE, dans l'environnement? On sait que digitalisation et protection de l'environnement peuvent être meilleur ami et meilleur ennemi en même temps. Donc, est-ce que ça fait partie peut-être des critères de sélection?
Honnêtement, je n'ai pas tous les critères de sélection. Mais notre événement, il fait en sorte de... Nous avons des thématiques sur la durabilité, justement, la digitalisation et la durabilité. On a un panel dédié à ça. Nous accordons une importance au côté environnemental, les responsabilités environnementales des entreprises et des acteurs dans le domaine du ICT. C'est un must, comme on dit. C'est quelque chose qui doit être là et nous avons l'obligation et le devoir de prendre ce volet-là en considération.
Il y a un focal aussi sur la 5G. On l'a vu ce matin avec nos amis de Mobilis. Ça démarre déjà.
Oui, ça démarre, mais je préfère, concernant la 5G, je préfère laisser
Quelle prudence d'un coup.
Oui, je préfère laisser ce point-là qui soit développé par les spécialistes de la thématique.
Le sens de ma question aussi là, c'est toi qui as été une fine observatrice de tous ces changements sociaux et sociétaux induits par le digital. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'on est déjà à la 2G, la 3G, la 4G. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus?
Vous parlez de l'événement ou de la 5G?
De la 5G.
Ah, qu'est-ce qu'elle va nous apporter le
plus? Je m'adresse aux témoins de l'époque.
Oui, je suis quelqu'un qui n'est pas né dans l'ère d'Internet et de la digitalisation. Mais
On a dit qu'on dévoilait les âges de personnes autour de la table.
À partir
de 18 ans autour de la table.
À partir d'une certaine période.
C'est l'avantage de la radio sur la télévision. Voilà.
Effectivement. À partir d'une certaine période, ça s'est rentré chez nous, ça a été intégré dans notre cursus universitaire, dans notre travail. Ça facilite la vie, ça facilite l'évolution. Elle est là, on est obligé de s'adapter parce qu'il y a d'autres pays qui ont bien évolué avec la 5G. C'est un levier d'évolution et de développement. Mais en parallèle, il faut aussi garder en tête les points. Chaque chose a ses points positifs et ses points négatifs, bien sûr. Il faut rester aussi à l'écoute de ces paramètres-là.
Et quid de l'environnement? 5G et environnement, Lina. Est-ce que ça fait bon ménage? Parce que là, pour avoir étudié un peu la question, il y a 36 000 études contradictoires.
Exactement. En fait,
quand une étude généralement américaine, c'est plutôt positif. Quand c'est européen, c'est un peu plus circonspect. Et pourtant, c'est le même processus de validation par les pairs, etc., etc.
Exactement.
On s'y retrouve comment?
En fait, c'est il faut toujours faire la balance des choses, ne pas trop abuser. En même temps, la 5G, elle a beaucoup d'avantages. Peut-être qu'on pourrait toujours viser à diminuer son impact environnemental. Tout ce qui est numérique, on va dire comme ça, digital, c'est toujours lié à la consommation d'énergie, au matériel et tout. Donc, il faut toujours trouver des alternatives. Et ça peut, c'est une bonne idée. Ça peut être ça a toujours un impact sur l'environnement. Voilà. Le but, ça serait toujours de diminuer cet impact. Et quand on a fini de diminuer, on compense.
On compense. Je profite de la présence de nos deux professionnels de la communication pour leur poser une question que je pose à chaque fois dès que je reçois une start-up. Ayant participé à quelques jurys de hackathon, etc., nos start-up, pour l'instant, en 2025, je ne dis pas la majorité, mais beaucoup, en fait, ne savent pas vendre leurs produits. Parfois c'est une innovation technologique de taille, parfois c'est vraiment de l'ingénierie pure et dure, ça fait vraiment plaisir, il y a des idées qui sont juste sublimissimes, mais au moment du pitch, quand il faut convaincre, ouais, ça coince. On y remet... Non.
Remédie.
C'est aux conditions, aux subjonctives. Vas-y, Lina, vas-y.
Comment
je suis pas convaincu.
Comment
voilà, c'est difficile. Hein,
c'est
difficile.
Ouais.
Allez, Karina.
Alors, en fait, par rapport justement aux startups, on remarque que les startups, et c'est dommage, hein, en 2025, des startups qui n'intègrent pas les ODD, les objectifs de développement durable dans leur business model. Et ça, c'est vraiment dommage. Mm-hmm. Ça pourrait être vraiment un critère de sélection. Ça pourrait être vraiment un très bon critère de sélection. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à ces startups, c'est déjà d'intégrer dans leur business model ces ODD, ces objectifs de développement durable.
Docteur, la conclusion
alors,
est à vous.
Effectivement, donc, je rejoins aussi Karina, mais il y a d'autres startups aussi qui pensent à y intégrer. Pourquoi ? Parce que ce sont les organisateurs qui pose ceci comme critère.
D'accord.
Donc, c'est ce qui encourage d'ailleurs
surtout
les entreprises.
Surtout pour l'entrepreneuriat durable.
Exactement. Alors, pour revenir à ta question, Reda, je suis entièrement d'accord. C'est ce que je dis toujours, d'ailleurs, lorsque je suis membre du jury. On peut avoir les plus belles idées au monde si on ne sait pas
absolument
les communiquer comme si nous n'avons rien fait, comme si que, finalement, on va faire un bon gâteau, on le laisse dans le frigo et après, on l'oublie. Donc, la meilleure façon de faire, encore une fois, moi, je parle sur l'investissement en communication. Mon dernier mot, du moment que nous arrivons à la fin de
vous avez deux minutes, hein, donc
ça voilà, deux minutes, bah ça va, 120 secondes, ça va. J'ai quand même droit à quelques mots. Alors, pour conclure, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la communication aujourd'hui, ce n'est plus la communication classique que nous connaissons, ce n'est plus ce simple message qu'on va échanger entre émetteur et récepteur, et j'ai envie de dire la définition classique, mais aujourd'hui, la communication est une véritable compétence stratégique, un véritable levier.
C'est pas un gadget, voilà.
Ce n'est pas un gadget, c'est un outil de cohérence, c'est un starter d'innovation. Et je pense qu'il est réellement temps, il y a une prise de conscience, alhamdoulilah, par rapport à ça, d'investir dans le domaine de la communication. On n'attend pas à ce qu'on arrive dans le domaine professionnel, mais l'investissement en communication doit commencer déjà à la maison. Et si à la maison on a du mal, au moins un âge quand même assez bas.
Voilà, maintenant on sait comment y remédier. Voilà, 18h55 sur les ondes de Radio Aïcha 3. Merci beaucoup mesdames de nous avoir honoré de votre présence. Merci beaucoup à Adamine B derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, amen du monde et à jeudi prochain.
Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell.